Il lance ses comptes.
Salut Philippe.
Salut Marie-Claude.
Bon, alors écoute, une défaite... tu parles d'un revers plate. Moi, je te dirais une défaite nounoune, franchement.
Ben, c'est ça. Le Canadien avait une belle occasion hier au Minnesota.
Occasion de pas perdre.
Ben voilà, puis d'engranger des points très nécessaires au classement, surtout après une victoire surprenante à Saint-Louis contre les champions en titre de la Coupe Stanley. Alors, le Canadien arrive là, théoriquement, avec un bon bagage de confiance et puis la possibilité de réussir une belle performance au Minnesota. Mais non, ça s'est pas produit, même si l'équipe a pris l'avance deux fois dans le match.
Combien de points il manquait l'année passée pour les séries?
Il en manquait trois. C'est pour ça qu'on dit souvent, une défaite au mois d'octobre, c'est pas si important. Ben non, mais au bout du compte, souvent, on paie pour ces points-là. Mais encore une fois, on s'en parlait tantôt, Marie-Claude, moi, je pense qu'il faut pas s'en étonner beaucoup. La caractéristique, ou une des caractéristiques fondamentales des équipes qui sont qui sont pas les superstars de la Ligue, puis qui sont pas les cancres non plus. Le groupe des équipes moyennes, on peut parler d'une bonne quinzaine d'équipes dans la Ligue nationale, c'est cette recherche de constance, d'être capable d'aligner une petite série de victoires, d'en coller tout à coup 3-4 de suite, de profiter d'un adversaire plus faible pour, tu sais, y aller avec une belle victoire convaincante qui va bâtir un peu la confiance ou la consolider. Et ça, les équipes qui sont plus moyennes, souvent, elles ont de la misère avec ça. Elles ont de la misère à gravir cette dernière marche-là. Puis pour moi, ce qui s'est produit en fin de semaine, c'est exactement ça chez le Canadien. On donne tout contre Saint-Louis, on joue un gros match, on étonne, puis vraiment de la belle façon. Carey Price est splendide.
Puis là, on va devant quelqu'un de faible.
C'est ça. Hein? On se prépare un petit peu moins bien.
Puis là, on se dit, là, c'est sûr qu'on va avoir ça facile. Puis c'est là qu'on peut
se faire surprendre. Puis là, certains ont commencé à parler de la fatigue, deux matchs en deux jours et tout. Franchement, si on parle de fatigue au mois d'octobre, on est mal parti.
Puis je te parlais de ma théorie à moi, mais je pense qu'elle s'applique moins cette année. Mais pendant longtemps, mon Dieu Seigneur, combien d'années de suite le Canadien scorait, pour citer les maniaques de sport, avait des scores incroyables jusqu'aux fêtes.
Ouais.
Puis là, on était heureux, fous comme des balais, ça sentait la coupe à plein nez. Ouais. Puis en janvier,
ça a beaucoup été, c'était une excellente théorie.
Mais moi, ça a été, pendant des années, j'ai remarqué ça.
Et beaucoup sous Michel Therrien, parce que quand Michel Therrien était l'entraîneur, Michel Therrien a toujours eu cette réputation-là comme entraîneur. Au début de l'année, il poussait la machine beaucoup plus que les autres entraîneurs dans la Ligue nationale. Alors, l'équipe avait des résultats, mais on arrivait au mois de janvier, au mois de février.
Épuisé.
Le message passait pas.
Oublié.
Tout le monde était épuisé. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est ce qui a causé la perte de Michel Therrien au bout du compte. Tout à coup, ça fonctionnait plus à cause de ça. Alors, Claude Julien, quand il est arrivé, il a décidé d'avoir une approche un peu différente. Là, le Canadien, sous ses guides, a connu à sa première saison complète un très mauvais début de saison, mais ils s'en sont jamais remis. Alors, faut que tu trouves un équilibre, mais c'est pas tout le temps.
Bon, écoute, on change de sujet pour parler de tennis. Ouais. Belle victoire de Chapeau Valeur. Et qui a valeur contre.
Ouais, puis tu sais, c'est pas le plus gros des tournois. Là. On parle d'un tournoi à Stockholm, 250 points ATP. Là, quand on sait qu'un tournoi comme celui de Montréal, c'est 1000 points. Alors, c'est un tournoi de plus petite envergure, mais il n'avait jamais gagné en demi-finale sur le circuit masculin. Il y avait une fiche de 0 victoire, 7 revers en demi-finale. Alors, non seulement il gagne la demi-finale, mais à sa première finale, il la remporte aussi. Alors, c'est un doublé pour lui qui est important. Ça lui vaut évidemment un petit bon classement. Il se retrouve 27e. Et là, aujourd'hui, on a appris tout ça. Ça va vraiment être le fun, Marie-Claude. La Coupe Davis, tu sais, la Coupe Davis, c'est toujours été un petit peu mêlant comment ça fonctionnait. Le groupe mondial, puis le groupe 1.
Très compliqué.
Puis des matchs en avril, puis des matchs en octobre. Puis
un pays, puis un autre,
c'est ça, c'est ça. Alors, pour l'expliquer facilement, là, c'était un peu compliqué. Mais là, on a complètement fait table rase sur cette formule-là de la Coupe Davis. C'est tout nouveau maintenant ce qu'on va faire. C'est un tournoi qui aura lieu à la fin du mois de novembre en Espagne. Et ça va être un tournoi qui ressemble un petit peu à une Coupe du monde de soccer, des groupes de trois pays. Puis bon, les gagnants se retrouvent en huitième de finale. Puis bon, etc. Après ça, on continue jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant. Donc, quelque chose de simple qui est concentré une dizaine de jours. Ça promet d'être spectaculaire. Et aujourd'hui, l'équipe canadienne a été annoncée. Et ça va être le fun parce que Félix Auger-Aliassime est là. Denis Shapovalov est là. Raonic est là. Et puis pour compléter en double, très certainement, Vasek Pospisil.
Ouais. Oui.
Alors, ça va être une belle équipe. Et le Canada se retrouve dans le même groupe que les Américains. Puis je lisais des textes aujourd'hui. Les Américains, ils sont très nerveux. Puis ils ont raison de l'être aussi parce qu'ils n'ont pas une équipe aussi forte que le Canada. Ça, c'est sûr.
Vraiment bien pour nous en ce moment. Par contre, une qui se retrouvera pas là probablement, c'est Eugénie Bouchard.
C'est catastrophique.
C'est la débandade.
C'est catastrophique. Je comprends qu'elle n'a pas joué beaucoup, mais le nouveau classement de la WTA qui sort aujourd'hui, elle est maintenant 220e au monde. Et là, ce que ça veut dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment ça complique énormément le reste de son de ses perspectives pour les prochaines semaines.
Son budget.
Son budget, mais c'est surtout la possibilité de participer au grand tournoi. Parce que le premier grand rendez-vous de la saison 2020, c'est comme à l'habitude les internationaux de tennis d'Australie. Et même pour le dernier majeur de la saison, cette saison, les internationaux des États-Unis, elle était qualifiée d'office. Son classement était assez élevé pour qu'elle n'ait pas à passer par les qualifications. Mais là, en Australie, Marie-Claude, c'est pas le cas. Elle devra se qualifier et ça sera pas facile pour elle du tout, du tout, du tout. Donc, c'est vraiment une carrière qui, si elle ne la reprend pas en main très, très rapidement, se demande un petit peu comment elle pourra continuer.
Oui. Par contre, une qui continue de nous émerveiller, c'est ouais. Bianca. Ouais. Et elle, je sais pas, peut-être que tu prendras ce que je dis, ces mots-là, puis tu sauras me les faire regretter un jour, mais moi, j'ai l'impression qu'elle est partie pour continuer longtemps sur cette
pleinement place. D'accord avec toi, pleinement d'accord avec toi.
Quelque d'ailleurs, chose chez elle qui montre...
Elle a une volonté, elle a une pugnacité en elle qui est absolument exceptionnelle. Oui, tout à fait, puis elle a une belle approche du sport aussi, puis elle met carrément toutes ses énergies là-dedans, puis ça, c'est très, 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 très important.
C'est ça, elle a le côté spectaculaire.
Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais elle est quatrième au monde maintenant. Jamais une Canadienne n'avait atteint ce temps-là, ce rang-là. Eugénie Bouchard, en 2014, avait atteint le cinquième rang, mais c'est la première fois qu'une Canadienne atteint le quatrième rang. Ce sera, à n'en pas douter, quand on va remettre les trophées en fin d'année, l'athlète canadienne de l'année, tout sexe, tout sport confondu, Bianca Andreescu, elle peut déjà aller chercher son trophée.
Et on va être tous debout dans nos maisons pour l'ovationner avec bonheur. Il reste 30 secondes, tu veux nous dire un petit mot sur la Chine?
Ben oui, tu sais, toute cette saga entre la Chine et l'Association nationale de basketball, il y a encore eu un autre rebondissement en fin de semaine. Voilà que les médias chinois, la télévision nationale chinoise s'en prend personnellement au commissaire de la NBA en disant qu'il paiera un jour, qu'il aura un châtiment à payer pour noircir l'image de la Chine, parce qu'on sait que quand il est revenu aux États-Unis, il a dit que le gouvernement chinois lui avait demandé formellement de mettre à la porte le directeur général des Rockets de Houston, celui par qui tout ça est arrivé. Il a dit non. Et là, la Chine nie. Le gouvernement chinois dit c'est pas vrai. On ne lui a jamais demandé ça. Alors là, les Chinois disent qu'il va payer pour cette déclaration-là. Bref, ça va pas très bien dans ce dossier-là. Mais je pense que M. Silver, j'ai pas été convaincu, Marie-Claude, par la façon dont il a abordé le dossier au début. Mais là, je trouve qu'il prend au moins le gouvernement chinois de front depuis quelques jours et il le fait bien.
Ça prend du courage. Merci beaucoup, cher Philippe. À plus tard. Ouais. On va s'arrêter pour une pause et après, Catherine va nous remonter le moral avec le Icky Breaky Dance.